parler, et comme je vous ai écouté, je vais essayer de commenter un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. La voix va bien, là, vous m'entendez? Bon, parfait. D'abord, je dois me présenter, donc pour ceux qui ne me connaissaient pas, Jean-Pierre Corbel, ça a été très laudateur, il ne faut pas exagérer non plus. Je suis d'abord conseiller en gestion de patrimoine, c'est mon métier de base, que je pratique encore tous les jours, avec grand plaisir. La deuxième chose, c'est qu'on a créé ce truc, Club Patrimoine, ce site, un peu pour rire au départ, et puis c'est devenu un vrai succès. Pour vous donner un ordre d'idée, on a plus de 40 000 visiteurs uniques mois, qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, des banquiers, des notaires, des experts comptables et quelques avocats. Ce qui est intéressant, c'est de parler à l'ensemble de l'écosystème, au fond, du métier qu'est la gestion de patrimoine, et donc de l'ouvrir à toutes les professions qui s'y intéressent. On a fait quand même, pendant le mois d'août, 23 000 visiteurs uniques, ce qui est un score assez sympa, au fond, ce qui veut dire que les gens restent connectés pendant les vacances. Et puis pour ceux qui connaissent Clermont-Ferrand, dont je suis originaire, je suis depuis un an et demi, à mon corps défendant, mais quand même, président de l'OREP, et président du conseil d'orientation de l'université sur la partie gestion de patrimoine. Donc j'ai pris la suite de Jean Blanier, c'est pas vrai du tout, il est toujours là, pour ceux qui le connaissent, et c'est toujours lui le patron, en réalité, mais bon, voilà, ça lui permet de se reposer un peu sur le plan administratif. Donc voilà mes différentes fonctions. Club Patrimoine, ça m'amuse beaucoup, ça donne une tribune, ça donne notamment, j'essaie de me faire le porte-parole de la distribution, parce qu'au fond, mon métier, c'est d'être distributeur, hein, donc j'essaie de faire en sorte que les distributeurs aient un peu la parole, et je dois dire qu'on commence à y arriver, effectivement, et que ça commence à être entendu. Effectivement, j'ai proposé à quelques présidents de compagnie de venir discuter avec moi sur le plateau. En général, ils ne viennent pas. C'est pour ça que je vous ai mis un micro à la Bourdin sur la revue de presse pour avoir un clin d'œil sur ce sujet-là. En introduction, je voudrais vous dire, souvent on dit que je suis pessimiste, c'est pas vrai du tout. Je suis juste réaliste, hein, je regarde les faits tels qu'ils sont et j'essaye de comprendre le monde tel qu'il va. Cela étant, je suis très optimiste. C'est-à-dire que, d'abord, on n'a pas le choix. Donc le show must go on, hein, quoi qu'il se passe, donc on va être dans ce monde qui bouge, sauf que ce monde, on le sent bien, il est en pleine transformation, et qu'on le veuille ou non, si j'étais expert comptable, je dirais, il y aura un write-off à un moment donné, il y aura un problème, on le sait bien tous, on le sent bien, hein, il n'y a pas besoin d'être grand clair, il suffit d'avoir du bon sens pour comprendre que ce qui se passe en ce moment, notamment l'endettement, je disais ce matin dans ma revue de presse, prenez un chiffre, l'endettement mondial, c'est 255% du PIB mondial. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Et comme Jean-Pascal le disait tout à l'heure, c'est des éléments marketing tout ça, de le présenter comme ça, parce que quand vous vous dites en France, l'endettement, ou le déficit plutôt, c'est 3% du PIB. Bon. Mais personne ne comprend ce qu'est le PIB. Et 3%, tout le monde trouve que c'est pas cher. Et c'est une manière marketing de présenter les choses. Pourquoi? Parce que ça n'est pas la réalité. Si je parle en Auvergnat, je dis ce qui m'intéresse, c'est combien j'ai de déficit par rapport à ce que je gagne. Or le PIB, c'est pas ce que gagne l'État. Ce que gagne l'État, c'est le budget de l'État. Donc, dire j'ai un déficit de 3% du PIB, c'est une manière détournée de cacher les choses et de faire en sorte que personne ne comprenne. Vous avez remarqué que la ministre de l'Éducation nationale a supprimé des cours d'économie en seconde. Donc, tant qu'à faire, on va essayer de ne pas éduquer les gens pour faire en sorte qu'ils ne comprennent pas. Juste pour vous donner un chiffre, si je ramène le déficit de la France à son budget, ce qui est beaucoup plus intéressant quand même, ça fait entre 25 et 28% de déficit. C'est-à-dire qu'on dépense chaque année 25% de plus que ce qu'on gagne. Si on disait ça, ça serait déjà plus parlant. L'Auvergnat que je suis comprend de quoi je parle. Si chaque année je dépense 25% de plus que ce que je gagne, ben forcément, je comprends bien que ça va mal assez vite, quoi. Voilà. Mais 3% pour le commun des mortels, c'est pas grand-chose. Alors, vous l'avez vu dans cette intervention, il s'est passé des trucs. J'allais appeler cette intervention le hasard ou la nécessité. Voilà, c'est une vraie question. Le hasard, j'y crois pas trop. Donc, bizarrement, il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez entendu quasiment de manière concomitante. Hein, en juin, la loi Sapin 2, je vous rappelle l'histoire, vous l'avez entendu. La nuit, dans une loi Sapin qui, comme la loi Macron, est une loi fourre-tout, arrive un article 21 bis, donc entre le 21 et le 22, forcément, amené par Bercy, sans que ma copine Karine Berger, qui normalement sait tout, soit au courant. Elle arrive le matin, elle dit « C'est quoi cette connerie? Je n'étais pas au courant. » C'est voté dans la nuit. Et que dit le 21 bis? Ben, vous l'avez vu, vous connaissez tous maintenant et toutes, évidemment. Il dit, grosso modo, les assureurs français ont capacité à bloquer la liquidité des contrats d'assurance-vie. Alors on vous dit, par période de 2 fois 6 mois, enfin 6 mois renouvelables une fois, bon, tout le monde sait qu'on ferme la liquidité d'un produit, on ne sait jamais quand elle rouvrira. Hein? Alors, on l'a vécu en 2008, je reviendrai tout à l'heure sur 2008, mais 2008, ça a été assez simple parce que c'était du monétaire, mais si c'est l'assurance-vie, c'est une autre histoire, on a des produits longs derrière, donc il faut bien se poser la question. Par exemple, en Angleterre, ce qui s'est passé sur les produits immobiliers suite au Brexit, vous avez vu le nombre de fonds qui ont fermé, à quelle rapidité ils ont fermé, Et les assureurs aujourd'hui nous disent, en Angleterre, on va rouvrir sous 2 ans. Deux ans, pourquoi pas 3, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous comprenez bien, en tout cas pour l'assurance vie, si demain on fermait la liquidité de l'assurance vie, il y aura tout le monde devant la porte à l'ouverture. Hein. Évidemment. Donc personne ne sait, d'ailleurs je crois que personne ne sait où on va réellement. Donc hasard ou nécessité. Juste derrière, le 14 juillet, j'ai fait un trait d'humour en disant, en général, au journal officiel, j'ai fait une chronique là-dessus. D'abord, il n'y a personne le 14 juillet, et si on publie quelque chose au journal officiel, vous n'imaginez pas les bureaux du journal officiel pleins le 14 juillet de fonctionnaires travaillant massivement pour publier des décrets. Donc, bon, et en général, quand on publie le 14 juillet, c'est les légions d'honneur, point. Là, on nous sort les décrets eurocroissance. Je vous rappelle l'histoire, les décrets eurocroissance. Donc, il y a eu une consultation publique, vous vous souvenez de ça? Consultation publique qui disait, en fait, il y a deux options. Soit on laisse la liberté à l'assuré de prendre un peu de son actif et de le transférer sur l'eurocroissance individuellement. Et il transfère avec lui une part de ses plus-values latentes. Et là, c'était la première proposition. Deuxième proposition, pardon, on le fait de manière collective et on laisse, au fond, à l'assureur faire ce qu'il veut. Quand vous lisez le texte du 14 juillet, c'est très intéressant. On lit à l'unanimité, à la quasi-unanimité des réponses, on a trouvé que la deuxième solution était la meilleure. Ça m'étonne quand même. La quasi-unanimité des réponses. Enfin, moi, je suis assuré. Je préférerais avoir le choix individuel de transférer mes propres plus-values plutôt que laisser l'assureur transférer mes plus-values sur un autre. Parce qu'au fond, c'est bien de ça dont il s'agit. On va transférer mes propres plus-values sur quelqu'un d'autre. Je suis vrai. Bizarre. Donc, alors, j'ai lu récemment, c'est pour ceux qui suivent Marbury Press, j'ai lu un truc qui m'a, cette semaine, énormément étonné. C'est que Karine Berger, toujours la même, qui ne demande pas de s'exprimer, dans les débats parlementaires, a lâché un truc. Apparemment, Bercy a dit qu'il ne fallait pas le répéter. Il semblerait que ce soit l'affaire et Aviva qui ait demandé le 21 bis. En tout cas, elle l'a déclaré. Elle a dit, ça a été fait à la demande de l'affaire et de son assureur Aviva qui est en risque systémique. Donc, voilà, je vous soumets l'information. Pour la petite histoire, je l'ai mis dans ma revue de presse. J'ai eu l'appel immédiatement d'un journaliste qui m'a dit, attention, merci, m'a appelé, pour dire qu'il fallait pas en parler. Vous êtes gentil, c'est dans les débats parlementaires. Donc, voilà. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend bien compte que le gouvernement se dit, il y a un risque systémique sur l'assurance vie. Enfin, il n'y a pas besoin d'être grand clair. Être désagréable avec les assureurs, une fois n'est pas coutume, mais moi ça fait, je pensais dans le métier assez tôt, en 81, je crois, mais et depuis 80, les assureurs m'expliquent qu'ils sont géniaux sur les fonds en euros, qu'ils ont des résultats super, que c'est des grands gérants obligataires, tu parles. Je veux dire, quand je gère long et qu'on est en baisse des taux depuis que je travaille dans ce métier, c'est quand même pas être grand clair et un génie de la gestion obligataire, surtout si on travaille sur le long terme, que de faire des résultats à peu près satisfaisants. Sauf que le fonds en euros, on est tous d'accord pour le dire, c'est une escroquerie intellectuelle depuis l'origine. C'est-à-dire que je vends un truc à des clients qui dit je vous donne le taux du long, je vous donne une garantie de capital immédiat en effet de piquer de la liquidité. Je vais expliquer comment on fait. C'est un tour de magie. Alors c'est un tour de magie qui marche très bien, j'ai ma baguette, tant que les taux baissent, et puis le jour où les taux remontent, c'est fini. On imagine bien que ces taux seront compliqués. Alors pourquoi ils remonteraient au fond? Parce que quand on parle de ça aux assureurs, ils nous disent « Ouais, mais c'est pas grave, ça va jamais remonter. » Donc j'en entends, hein. « Ne vous inquiétez pas, on est comme ça pour 10 ans. » Pourquoi y remonter, au fond? Alors, je vous rappelle que la dette française... Tiens, un autre chiffre assez intéressant. Combien les assureurs français détiennent-ils de la dette d'État française? En général, on dit quasiment tout. 18%. 18%. Qui détient le reste? Principalement l'étranger. Donc pourquoi les taux français remonteraient-ils? Quand on pose cette question, on se dit immédiatement, mais pourquoi ils sont si bas, au fond? Tiens, c'est bizarre, quand même, on a un État qui arrive assez mal à gérer ses finances publiques, on est si bas. Alors, on comprend d'abord que c'est une offre de marché, hein, comme les Allemands émettent moins, forcément, il faut bien mettre de l'argent quelque part, et comme la BCE balance moins de pognon, il faut bien faire quelque chose. Bon. Mais pourquoi? Au fond, parce que je peux avoir confiance en la France, ça a du sens, même si économiquement, on n'est pas brillant, patrimonialement, vous le savez tous, on est très riche. Et on a une deuxième qualité en France, c'est qu'on sait lever l'impôt. Bercy est très efficace, contrairement à la Grèce. Donc si vous êtes face à un pays, vous êtes créancier d'un pays qui est très riche patrimonialement et qui sait très bien lever l'impôt, vous n'avez pas de souci. Vous dites je prête à un pays qui saura me rembourser. Sauf crise politique. J'ai discuté avec un de mes amis que certains connaissent récemment, certainement, qui s'appelle Alain Vicaire, qui était un des plus grands gérants obligataires français, et il me disait le risque c'est le risque social. Le risque c'est le risque social. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Une crise politique, on n'en est peut-être pas loin, je ne veux pas faire de politique fiction, mais 2017, Je ne sais déjà pas qui sera le président de la République en 2017, je n'ai pas de boule de cristal, ça c'est sûr, mais ce que je sais encore moins, c'est ce que sera la Chambre. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression qu'on aura un président de la République élu par défaut, c'est-à-dire qu'il emportera l'adhésion d'assez peu de gens, au fond, en valeur absolue, et que derrière, on aura des législatives complexes, peut-être, hein, je n'ai pas de vérité, hein, peut-être. Mais en tout cas, si c'est complexe, alors l'étranger pourra commencer à se dire, attention, si j'ai une chambre complexe, j'aurai un problème sur la loi de finances, et si j'ai un problème sur la loi de finances, j'aurai un problème sur la levée d'impôts, peut-être. Et à ce moment-là, les taux peuvent commencer à monter. C'est un scénario, ça vaut ce que ça vaut. Et donc, je pourrais me poser la question. À ce moment-là, j'avais discuté avec un de mes amis assureurs assez connu un jour. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, quand les taux français étaient à 3 et les taux italiens à 6 à peu près. On parle d'il y a 3 ans à peu près. Et cet ami assureur en plateau, un des rares qui acceptent de venir, m'avait dit, c'est simple au fond. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si on arrivait, parce qu'il y a un problème justement de gouvernance en France, à des taux à 6 par exemple. Imaginons, on dit. Alors, bien sûr, il commence par me dire, c'est peu probable, sauf que c'est probable, même si c'est peu probable, c'est probable. Il y a une probabilité, même si elle est de 1%, elle existe. Et il m'avait répondu, c'est simple, à 4, on se met autour d'une table, à 5, on va voir le gouvernement, et à 6, c'est le dernier qui sort qui éteint les lumières. C'est pas moi qui le dis, hein. On peut le retrouver dans des archives. Donc forcément, on se dit à un moment donné, et on le comprend bien, et moi cette concomitance, comme je crois assez peu au hasard, même si je ne suis pas dans la théorie du complot, on comprend bien que... À un moment donné, si on avait du mal à rembourser, il faudra aller taper dans la caisse. Et la caisse, vous comprenez bien où elle est, l'épargne liquide des Français, elle est principalement dans l'assurance vie. Et une fois que j'ai fermé la liquidité, puisque j'ai cette capacité de le faire, eh bien, ça sera compliqué, ou plutôt facile pour les gouvernants, en tout cas, d'aller dire, après, j'en fais quelque chose. Je ne sais pas quoi. Encore une fois, je ne suis pas pessimiste, j'essaie juste de regarder les faits tels qu'ils sont. Surtout que tout ça... se conjugue avec une économie bulle, il faut le dire comme on parlait tout à l'heure de l'endettement des États, aujourd'hui il y a beaucoup d'argent, vous entendez tout et n'importe quoi, hein, la BCE qui va arrêter le quantitative easing, qui va le recommencer, on ne sait pas, les taux américains qui vont. Au fond, personne ne sait aujourd'hui, je défie n'importe quel économiste de comprendre dans quel monde on est. Quand je fais des chroniques et que je parle avec des gérants, et le mieux c'est en off, des taux négatifs par exemple, je dis au fond, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est Lewis Carroll, on est de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'on a une déformation de l'économie que personne ne comprend. Il n'y a plus. Comment fonctionne un monde à taux négatifs? Au fond, les taux négatifs, c'est un trou noir, c'est de la destruction de valeur. Comment fonctionne demain un monde à taux négatifs? Objectivement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de liquidités qui est de la monnaie de singe, ça c'est sûr, et que, eh bien, alors, est-ce qu'on remboursera un jour? C'est la question. Non, en général, un État n'a pas vocation à rembourser son endettement, il a vocation à le rouler, c'est-à-dire à le faire continuer, et on voit bien en Allemagne, le rolling de cet endettement peut faire baisser légèrement l'endettement si on est vertueux au niveau budgétaire. Mais enfin, à un moment donné, il faut au moins pouvoir payer les intérêts. Or, on voit bien que dans les pays que j'appelle du Club Med de l'Europe, on est un peu au bout des budgets, c'est-à-dire que monter l'impôt, ça devient compliqué. Donc si jamais les taux remontaient fort, on aura un double problème, un problème de valeur des actifs, et on aura un problème des États avec une capacité à rembourser, où ils vont prendre l'argent, on se pose bien la question. Donc on est tous d'accord, enfin je crois, hein, je suis ouvert bien sûr au débat pour dire, il va se passer un truc un jour, on ne sait pas quoi, on peut espérer que ça se passe plutôt bien doucement, l'histoire nous montre qu'en général ça ne se passe pas doucement, surtout quand il n'y a pas d'unité politique, or le problème de l'Europe c'est aussi ça, qu'il n'y a pas d'unité politique. Imaginons que ça se passe doucement, tant mieux, mais mon métier de chef d'entreprise, c'est d'être optimiste, je le disais tout à l'heure, et paranoïaque en même temps. Parce que seuls les optimistes sont à peu près heureux, mais seuls les paranoïaques survivent. Donc c'est d'être paranoïaque. Vous avez quelque chose
à dire? Oui, Jean-Pierre. Ce dispositif malsain, hein, taux long, liquidité, est très spécifique à la France. Hein. Ça ne marche pas du tout comme ça en Allemagne, ça ne marche pas du tout comme ça en Belgique. Que je connais bien. Il y a d'autres problèmes, hein, avec les taux bas, mais en tout cas, pas...
Mais parce qu'il n'y a plus les fonds euros comme ça, non plus.
Si, mais on n'en sort pas. On n'en sort pas quand on veut. Ou on en sort en market value. Voilà. Et ça m'inquiète parce que les solutions sont probablement au niveau européen. D'ailleurs, les fonds de résolution, ça se gère au niveau européen, etc. Et c'est déjà compliqué pour les Français, hein. Il n'y a qu'à regarder la télévision. Donc matin, j'ai vu un un échange. Yves Calvi, qui est un type, c'est plein de bon sens. Avec des...
Félix conclurait pour vous faire plaisir, je suis un garçon gentil.
C'est pas le but, hein.
Non, mais en disant pourquoi je pense qu'il faut effectivement aller à Luxembourg pour un certain nombre de, pour l'assurance vie en l'occurrence, et peut-être ailleurs pour d'autres investissements. Je vais essayer de répondre à quelques questions que vous avez posées tout à l'heure. Pourquoi on a oublié la crise de 2008 par rapport à la crise de 29? C'est très simple, parce qu'on a du marketing maintenant. Vous avez remarqué? En politique, on appelle ça des éléments de langage. Donc on a habillé le truc en disant, regardez, aujourd'hui les banques vous disent, c'est absolument pas systémique. Vous entendez des banques européennes dire, il n'y avait pas de risque sur les banques en France en 2008. Hein. Tous les jours, j'entends ça. Donc tout ça, c'est un affolement, c'est les banques américaines qui nous ont amené ça, et nous, on n'avait pas de risque systémique. Tu parles, il suffit de voir les amendes. Oui, certains ont pris pour voir, pour comprendre que ça n'est pas le cas. Mais c'est du marketing, ce sont des éléments de langage. Regardez ce qui se passe sur Sapin 2, j'ai fait 52 interviews sur Patrimonia. On m'explique maintenant qu'il n'y a pas de risque sur l'assurance vie, tout va bien. Que le seul risque, c'est nous, les distributeurs, parce qu'on affole Billancourt, quoi. Donc on affole l'épargnant, et que si on n'était pas aussi bête, il n'y aurait pas de risque. C'est quand même génial. Tout ça, c'est notre faute, au fond. Le mieux, ça serait de ne pas dire au client que c'est risqué. Si on ne dit pas au client que c'est risqué, le client ne s'affole pas. Et donc, il n'y a pas de risque. Il y a un peu le raisonnement.
Et quand c'est bloqué,
et quand c'est bloqué, bah, après, et d'ailleurs, si on bloque, c'est dans l'intérêt du client.
Tout à fait.
Bah, autrement, il... Mais oui, parce que si on ne bloque pas, eh bien, il va perdre de l'argent, il sera plus... Alors il vaut mieux bloquer.
Voilà.
Et on a les éléments de langage.
L'intervention du droit de galop lundi dernier, elle est dramatique. Quand on la lit au deuxième degré. Soi-disant, ça va protéger, mais tu comprends qu'il faut partir tout de suite.
Mais, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu comprends. Si tout.
Du moins, les malins, pas.
Si à la, enfin, c'est la forme des médias. Moi, j'écoute les journalistes. L'autre jour, j'étais sur BFM, je dis, avec mon ami Sommeraire, et je lui dis, écoute, moi, je crois un peu à la théorie du complot. Voilà, je pense que, quand même, grosso modo, ce sont les assureurs qui sont montés à Bercy. Puis on dit, il y a deux écoles, soit vous assumez le risque systémique et il faudra payer parce que de toute façon c'est too big to fail, soit on met en place un dispositif qui est un coupe-circuit et qui fait qu'on va couvrir les assureurs français en cas de crise systémique. Et comme la crise pourrait arriver avec une remontée des taux, eh bien je ne me pose pas la question, vous avez vu le nombre de dilutions qu'ils font. Enfin, je vois encore des assureurs, excusez-moi, mettre sur des fonds en euros des sommes massives en trésorerie d'entreprise. Enfin, en même temps, on dit qu'il faut protéger le petit épargnant, et en même temps, on bidouille sur la trésorerie d'entreprise. C'est quoi cette connerie? Je veux dire, faut dire les choses.
C'est vraiment creusé, ça tombe.
Et donc, Sommeraire me dit, oui, Jean-Pierre, la théorie du complot, toujours. Donc, les journalistes eux-mêmes sont travaillés tous les jours par les autorités, à qui on dit, bah, non, mais vous inquiétez pas. Donc, si on fait des bêtises maintenant, préparez-vous à ça. Hein. Ça sera de votre faute. Ça sera de la faute des conseils. Et vous allez voir que je ne serais pas étonné qu'un jour on nous dise qu'on est en responsabilité si jamais on conseillait à nos clients de sortir. Hein. Bah, après tout, voilà, ça, bah oui, c'est du marketing. Moi j'adore, les politiques appellent ça des éléments de langage, c'est important. Donc pourquoi 2008 est passé? Parce que le marketing s'est mis là-dessus. Ouais. Et qu'au fond, plus personne ne comprend ce qui est une obligation en France, hein, parce que les porteurs n'en ont plus. Donc plus personne ne comprend. Donc l'épargnant, il achète ce qu'on lui vend, c'est-à-dire du marketing. Eh bien, en cas de crise, on lui vendra le fait que ce n'est pas de la faute de ceux qui ont fait ça. Il y a un gérant qui n'est pas, le dernier des imbéciles, qui s'appelle Vincent Strauss de Comgest, pour revenir à 2008, qui disait, grosso modo, on est en 2008, hein, et il écrit ça dans les Échos, hein, c'est pas moi, il disait, la seule solution c'est de nationaliser les banques, parce qu'ils vont continuer. C'est-à-dire que si on les sauve, ils vont continuer. Et si vous regardez d'ailleurs ce qui s'est passé depuis 2008, aujourd'hui la masse de produits dérivés, puisqu'au fond tout part de là, la masse de produits dérivés est plus importante qu'en 2008. Donc on n'a rien d'arrêté. Alors on n'est plus sur les subprimes, on est sur autre chose, sur plein de trucs, mais la masse de produits dérivés a continué. Quand on parle de Deutsche Bank, je ne vous mets pas le nombre de milliards, parce que même moi j'ai du mal à mettre le nombre de zéro. Voilà, 46 000 milliards. Mais non, l'engagement dérivé de Deutsche Bank, c'est 15 fois le PIB allemand. Ça, on comprend mieux. L'engagement dérivé de Deutsche Bank, alors vous me direz, c'est un engagement dérivé, je ne sais même pas. Effectivement, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que c'est hors bilan. Un engagement dérivé, c'est hors bilan. Donc, quand j'entends des gens qui me disent, je sais lire le bilan d'une banque, je défie, alors là, pour le coup, il vient en plateau, il m'en parle. Je défie n'importe qui de m'expliquer ce qu'est le risque du bilan d'une banque, puisque la quasi-totalité du risque est hors bilan. Donc je ne peux pas savoir ce qu'il en est. Je ne parle pas des risques judiciaires qui arrivent derrière, effectivement. Donc voilà pourquoi 2008 s'est passé comme ça. Parce qu'au fond, on a fait du marketing, parce qu'au fond, on a noyé le poisson et qu'on a continué. Moi, pour si je fais un peu de politique économique, je ne comprends plus à quoi servent les dérivés. À un moment, je comprenais. Hein, si je suis Michelin, je comprends l'intérêt de me couvrir sur le pétrole, je comprends l'intérêt de me couvrir. Quand le dérivé devient un outil de spéculation absolue et qu'on me donne de la liquidité à la seconde, quand je suis Michelin, je n'ai pas besoin d'être couvert sur le pétrole à la seconde. J'ai besoin d'être couvert sur le pétrole à la semaine, voire au mois, mais je n'ai pas besoin de la liquidité à la seconde de couverture sur le pétrole. Hein. Je vous dirais, je ne connais pas d'entreprise qui ont besoin de ça. Donc ça veut dire que ces produits-là sont organisés aujourd'hui et les banques jouent ce jeu-là pour spéculer. D'ailleurs, vous avez remarqué que la masse de liquidité qui arrive sur le marché ne va pas dans l'économie réelle. Où va cet argent? C'est intéressant. Où va cet argent? Vous savez, dans la théorie de la monnaie, il y a la théorie qui finit par V, qui est vitesse. Et vitesse, c'est la capacité de la monnaie, quand je fais de la création monétaire, à aller dans l'économie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de vitesse. C'est la fin, c'est l'échec fondamental du quantitative easing. Souvenez-vous, en France, on nous avait dit il faut absolument faire une taxe sur les transactions financières. 2008, vous vous souvenez? À l'Assemblée, taxe sur les transactions financières pour éviter la spéculation. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis? Nos clients en France payent 0,20 sur chaque mouvement, de taux courant, hein, 0,20 à l'aller, taxe sur les transactions financières. Sur quel instant sont pris ces 0,20? Sur la liquidation en fin de journée. C'est-à-dire que si vous achetez une fois Michelin dans la journée, vous payez 0,20. Si vous l'achetez, vous le revendez 40 fois dans la journée et que vous mettez flat à la fin de la journée, vous ne payez rien. Donc, pourquoi en 2008, personne n'en parle? Parce que je ne comprends même pas comment c'est possible. Je ne comprends même pas comment nos gouvernants font ça. Donc, on est arrivé dans un système de folie qui, à mon avis, va mal finir. La garantie de l'assurance, pour répondre à votre question, bah c'est, je crois que je me suis trompé, c'est 37 000. J'ai compris 60 000. Je crois que c'est 37 000 clients. J'ai dit 70 000 tout à l'heure, c'est une erreur. Je confondais. C'est 37 000 clients qui sont couverts par le fonds de garantie de l'assurance. Vous vous souvenez d'un reportage qu'il y avait eu au moment où on était dans les risques, en 2011? Il y avait le président de l'autorité. Vous ne vous souvenez pas de ce reportage sur France 2, je crois? On demandait au président de venir, d'ouvrir les portes. Et le type, il ne savait même pas le code pour rentrer dans son bureau. Je vous jure. Vous retrouverez ça dans les archives. Mais je ne sais plus le code. Et c'est ça qui ne venait jamais, quoi, au fond. Donc, c'est quand même vachement intéressant. Voilà. Donc, nous sommes, pour conclure, et puis le but, c'est d'avoir des questions absolument, de votre part. Hein. Nous sommes, pour conclure, de l'autre côté du miroir. Moi, j'aime beaucoup cette image. Nous sommes rentrés dans un monde où personne, déformé. Hein, si vous voyez Lewis Carroll, vous voyez à peu près les horloges, les machins, les trucs. Ben c'est ça, au fond. Les taux négatifs, ça déforme notre monde et nos économistes ne savent pas où on va. Moi, je pense, mais j'ai peut-être tort, et c'est mon côté paranoïaque, que ça va mal finir, mais pas si mal que ça. Quand je dis mal, à l'échelle de la courte durée, c'est-à-dire qu'on va subir une crise que, je disais tout à l'heure, on appellerait un write-off en comptabilité, c'est-à-dire que toute cette liquidité qui ne sert à rien et qui n'est pas dans l'économie réelle, il faudra l'effacer. Et ça aura forcément des conséquences financières. Ça serait une crise lourde, ça serait une crise sociale à ce moment-là, parce que ça va avoir des conséquences sur le budget de l'État, enfin, et sur les assureurs, le cas échéant, et donc, ça aura un problème. Mais en France, qui est un pays que j'adore, j'ai pas envie d'en partir, en général, quand on vit une crise, en deux ans, on se remet d'équerre. C'est-à-dire qu'on a aussi cette qualité à rebondir très vite. Hein, vous regardez toute l'histoire de France, depuis aussi loin qu'on peut remonter, on est un pays qui ne sait pas réformer dans la douceur, donc on se réforme dans la violence, mais... en revanche, la remontée après le write-off est assez rapide et de bonne qualité. Donc, au fond, notre métier de conseil, c'est de nous préparer à ça. Dans toutes les périodes de l'histoire, vous prenez la Révolution française, en 1994, il y a quand même toute la France qui a fini dans le sang, et deux ans après, l'économie repart, il y a les merveilleuses qui sont à moitié dénudées dans les soirées, et tout le monde fait la fête dans Paris, enfin, je veux dire, et on fait venir un dictateur éclairé pour remettre tout ça d'équerre. Donc, au fond... Et c'est pas la seule, on peut prendre tous les exemples, on est Napoléon III, enfin, tous les exemples de l'histoire de France sont à peu près là. Donc, moi, je vois pas comment on ne finira pas par une crise dont je connais pas le niveau, mais il faut s'y préparer. Et on peut aussi être optimiste parce que le monde dans lequel on vit a du sens et présente plein d'opportunités. Moi, je suis un entrepreneur, hein, regardez dans nos métiers, il y a des choses, alors des fois on se rate, hein, il y a des gens ici qui savent, j'ai fait quelques échecs, hein, il n'y a pas que des succès. Hein. Souvent, quand j'ai investi dans des choses traditionnelles, j'ai perdu, la restauration, par exemple. En même temps, j'ai investi dans une maison qui s'appelle Cantalis, que certains connaissent ici, une belle start-up. Voilà, il y a des belles histoires, et donc on peut investir dans l'avenir, il y a des belles idées. Conséquences. Et pour conclure, il va se passer quelque chose dans notre pays qui est très fragilisé et qui a basculé très clairement du côté de l'Europe du Sud. Hein, donc on est très clairement... Voilà. En plus, comme on ne sait pas réformer bien, en plus... Il y a le jeu. Si Deutsche Bank déposait, moi quand j'entends les Allemands dire Deutsche Bank, c'est pas possible. En fait, ils vont marrer. On ne peut pas entraîner tout le système. Et donc, il y aurait des conséquences partout. Et comme on est plus fragile que les autres, il y aurait plus de conséquences chez nous. Mais il y a l'Italie qui est dans une situation, l'Espagne qui est dans... Donc, quelle que soit la situation, c'est pas forcément la France qu'elle viendra. Hein. Si un pays fondateur ou important dans la zone euro un problème, ça entraînera l'ensemble de la zone euro dans une situation difficile. Donc, les pays qui sont un peu tendus comme nous, eh bien, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on aura une tendance à regarder la caisse et à taper dedans, un petit peu. Donc, tant qu'à faire, autant se donner les moyens, et ça, c'est vous qui pouvez répondre jusqu'où vous protégez, hein, c'est pas moi qui peux le dire. Je suis pas sûr que ce soit parfait. Les fonds euros en Luxembourg, c'est aussi dangereux que les fonds euros en France.
Chose.
Voilà, donc c'est pas les fonds euros à Luxembourg qui défendent, hein. Mais ça, ce sont vos réponses. Mais en tout cas, le mieux, c'est de mettre son argent à un endroit où on peut penser qu'il est un peu plus protégé et que si jamais l'État venait taper dans la caisse, bah, il ne va pas pour venir là maintenant à cet endroit-là. Maintenant, après, peut-être qu'ils vont vous dire que vous êtes un dangereux révolutionnaire et qu'il faudra quand même ramener l'argent, autrement vous serez redressé dans tous les sens. Donc, il faut réfléchir à la stratégie, hein. Je ne dis pas que c'est la sécurité absolue. Mais en tout cas, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la sécurité, ça fait gagner de la visibilité, et c'est tant mieux. Deuxièmement, dans ce monde qui s'annonce, et on sent bien qu'on va avoir une révolution copernicienne, des relations économiques, etc., il y aura ceux qui s'adapteront et ceux qui ne s'adapteront pas. Un des anciens patrons disait, il y aura les monstres antédiluviens qui s'abîment dans la vase, les dinosaures, et ceux-là, ils mourront, comme sont morts les dinosaures, parce qu'ils n'étaient pas adaptables au monde qui s'annonçait. Et quand on regarde, et c'était pour ça que j'ai mis la conclusion de mon ami Gadencia, au fond, il y a d'un côté une industrie de l'assurance vie en France, je suis désolé s'il y a des assureurs autres dans la salle, j'en sais rien, mais qui a du mal à s'adapter, qui a du mal parce qu'elle a ses contraintes réglementaires, parce qu'elle a ses lourdeurs, etc. Et d'un autre côté, un outil luxembourgeois, à dire que c'est un couteau suisse, c'est pas bienvenu de dire ça, mais bon, c'est pas en tout cas, qui donne des moyens beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples, d'aller sur des classes d'actifs beaucoup plus ouvertes, d'avoir une capacité de gestion beaucoup plus large. Et pour conclure, on en parlait hier à table, moi je pense que de toute façon, face à cette crise, il faut sortir de tous les produits d'État ou tous les produits administrés. Il ne faut plus avoir de produits bancaires, il ne faut plus avoir de produits d'État. Et donc il reste à peu près, quand on regarde les classes d'actifs, assez peu de choses en réalité. Il reste l'action longue. Elle subira la crise, c'est sûr. Elle subira la crise, mais c'est ce que je disais hier soir. Et si l'or vendra toujours des verres de lunettes, et encore plus demain parce que les Chinois sont myopes, donc je préfère être sur un actif réel qui est une action plutôt que sur des produits administrés. Il y a de l'immobilier, je ne sais pas comment vous pouvez le rentrer dans vos contrats, mais vous y travaillez. Et même les SCPI, j'en parlais avec des gérants de SCPI l'autre jour. Alors les SCPI, aujourd'hui les gérants vous disent, ça sera liquide. Tu parles, s'il y a une crise, ça ne sera pas liquide. Tout sera corrélé. Enfin, je veux dire, c'est la porte, il y en a trois qui vont sortir, puis après on ferme la porte et c'est fini. Enfin, je veux dire, évidemment. Mais néanmoins, c'est un produit transparent qui détient des biens réels, donc ça passera quand même la crise. C'est-à-dire que ça durera, mais il faudra le porter. Hein, moi, j'ai acheté des SCPI il y a très longtemps, dans les années 90. J'ai eu quelques soucis à l'époque avec mes clients, puis ceux qui sont restés, ils ne s'en sont pas si mal sortis. Voilà. Mais il faut bien penser ça. Et puis, on ne peut pas détenir de l'or dans un contrat luxembourgeois. Notre ami Van Peysel a dit des bêtises. Mais et donc pour ceux qui veulent avoir, moi je pense aussi, c'est quand même mon avis, qu'il faut avoir de l'or ou des choses de ce genre dans son patrimoine, parce que c'est une assurance, c'est un fonds que j'aime beaucoup, qui s'appelle First Eagle, qui dit qu'il faut toujours avoir de l'or dans son allocation d'actifs, parce que de la même manière que vous êtes assuré contre l'incendie dans votre maison, eh bien l'or dans un patrimoine, c'est le moyen de s'assurer contre le risque extrême, et ça a du sens de voir le risque extrême. En tout cas, le fait d'être à Luxembourg, c'est pour ça que j'ai voulu faire une revue de presse très sympathique au fond, ça permet de dire trois choses. Un, je suis dans un pays qui se porte plutôt bien, qui a un endettement le plus bas d'Europe, qui est bien noté, encore que les notations, je vous rappelle que Lehman était 2A trois mois avant sa faillite. Donc, bon, voilà, c'est pas... mais en tout cas, c'est voilà, on voit l'endettement, on sait, et il y a tout le système du triangle de sécurité, etc. Et puis on pense que c'est un pays qui quand même n'ira pas taper dans la caisse aussi facilement et permettra pas au pays d'à côté d'aller taper dans la caisse aussi facilement. Maintenant, si vous êtes résident français, après, malgré tout, ça... De la même manière, je pense, et puis après j'arrête, de la même manière, je pense que c'est pas mal d'avoir de l'immobilier à l'étranger aussi, si je crois dans la classe immobilière, et que c'est pas mal d'aller diversifier. Aujourd'hui, pour les clients un peu riches, c'est pas idiot d'aller diversifier son patrimoine dans différents pays, peut-être dans d'autres zones. Moi, personnellement, j'investis pas mal au Canada, parce qu'on est dans une autre zone économique, dans un autre pôle de stabilité. Voilà, mais ça fait partie de la diversification globale. Merci de votre attention, et j'étais un peu long, donc je laisse de la place aux questions, bien évidemment.